Merci à vous, bonsoir à toutes et à tous. C'est dimanche, c'est l'heure du Grand Fauve à l'affiche ce soir. 3 en 1. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Le triathlon, c'est une affaire d'estomac, au premier degré d'abord. Dans une compétition qui sollicite l'organisme pendant plus de 5 heures, le carburant énergétique est indispensable, faute de quoi on s'effondre.
Natation, cyclisme, course à pied. C'est la maudite trinité du triathlon. Dépassement de soi, acceptation de la souffrance et culte de l'effort. La question se pose, l'essor grandissant du triathlon depuis 30 ans et qui s'est considérablement accéléré depuis une dizaine d'années, n'est-il pas corrélé à une nouvelle étape du capitalisme à la fin du XXe siècle ? Nager, pédaler, courir, ne serait-ce pas un symptôme du produire, produire, produire ? Ou au contraire, le triathlon n'incarnerait-il pas le désir de fuir notre société du contrôle? Eh bien, on va tenter une réponse ce soir. Et pour s'emparer de cette question, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, il est philosophe, triathlète lui-même et auteur d'un essai passionnant intitulé « Philosophie du triathlon ». Raphaël Verchir, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, celui qui a préfacé votre livre, historien agrégé de philosophie. C'est un immense plaisir de l'accueillir ici. Georges Vigarello, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, Jerry Marsden, chanteur et ménestrel de Liverpool. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, le triathlon ou la trinité des masochistes joyeux.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Ce soir, on débute avec un hommage rendu à une tête brûlée, à celui qui fut surnommé Roger le Fou, cycliste alsacien décédé dimanche dernier à Colmar. Roger Assenforder avait 90 ans, figure incontournable du peloton sur le Tour de France des 50s, extrêmement populaire. Il était une sorte de Fernand Reynaud à vélo. Les plus anciens s'en souviennent très bien. In memoriam, Roger Assenforder.
Cinquième étape du Tour 53, Dieppe-Camp. Roger Assenforder s'est donc enfui dès le départ. Attaquant de tous les instants, voici Fritz Schaer ici en sa compagnie. Assenforder en est à son premier Tour de France. Et depuis le départ de Strasbourg, il n'a pas cessé de se mettre en évidence. Impétueux et fantaisiste, il est à la tête du Tour.
J'ai donc pris ce fameux maillot jaune. Le soir, je me suis habillé avec le maillot jaune, j'ai couché toute la nuit avec ce maillot et quand Sauveur Dugazon est venu me réveiller le lendemain matin, il était tout étonné de déjà me voir tout prêt. J'ai dit, mais non, je ne suis pas prêt, je ne me suis même pas déshabillé, tellement j'étais content.
Mais alors que le peloton s'achemine de Bordeaux à Pau, le jeune Alsacien est victime d'une indisposition. Et le lendemain, dans la première étape de montagne Pau-Cotteret, il n'aura pas récupéré et sera cette fois éliminé.
Il se trouve qu'une certaine année, en 1956, vous vous êtes trouvé dans l'équipe des Bretons. Un Alsacien dans une équipe bretonne, c'est tout de même pour le moins paradoxal.
Oui, mais ça s'est produit de la façon suivante. Dans notre famille, nous avons un arbre généalogique et en fouillant bien là-dedans, je me suis aperçu que j'avais une arrière-grand-mère qui jouait du biniou.
Alors dans cette équipe de l'Ouest, vous avez retrouvé Louis Capu, et on peut dire que vous avez formé une paire de bons copains là-dedans avec les autres Bretons.
Oui, c'est d'ailleurs le seul Tour de France que j'ai pu terminer parce que c'était vraiment une équipe formidable. On a gagné plus d'argent que l'équipe de France.
Et la série des victoires ne s'est du reste jamais interrompue. 3 fois vainqueur du Critérium National, vainqueur des Boucles de la Seine, du Tour du Sud-Est, du Tour de Picardie, il ajoute ici une nouvelle étape au Tour de France 57 à Colmar, en Alsace, chez lui.
Dans la roue de Roger le Fou, ce soir, nous ferons un tiers du chemin à vélo. Voici l'histoire du dimanche soir. En 1898, Monsieur Gustave de La Freté, collaborateur en complet veston du journal La Presse, organisa en France une course intitulée « Les trois sports » où les concurrents devaient enchaîner 500 mètres de course à pied, 10 km à bicyclette dans un vélodrome et 1200 mètres d'aviron. Le classement final se faisait d'après l'addition des places obtenues dans les trois épreuves. Le tout vantait la naissance d'un athlète complet. Eh bien, même si l'audience fut très faiblarde à l'époque, nous étions là face aux prémices d'une pratique sportive appelée à devenir un succès mondial un siècle plus tard.
Le triathlon, c'est un sport qui exige beaucoup de maîtrise, de connaissance de son propre corps. Et je crois que c'est ce qui caractérise le plus le triathlète. C'est quelqu'un de très mature qui veut aller au bout de lui-même, mais dans la connaissance de ses propres sensations.
Quelles sont les différentes épreuves du triathlon ?
Alors le triathlon est un sport qui, d'abord, il faut le rappeler, enchaîne la natation, le cyclisme et la course à pied, sur des distances qui sont extrêmement variables, 750 mètres de natation, 20 km en vélo, 5 km de course à pied, le courte distance qui sera l'épreuve courue au jeu, 1,5 km de natation, 40 km en vélo et 10 km de course à pied, et le longue distance, tout ce qui est au-delà de cette fourchette.
Georges Garello, vous êtes historien, bien sûr, agrégé de philosophie, et vous avez signé la préface de ce très bel essai signé Raphaël Verchère, Philosophie du triathlon. Préface où vous soulignez, Georges, que l'auteur, ici présent avec nous ce soir aussi, a repéré que dans l'enchaînement de ces trois épreuves, à savoir la natation, le cyclisme et la course à pied, on y pouvait y voir la répétition symbolique de la philogenèse. C'est très fin, mais qu'est-ce que ça veut dire, Georges Vigarello ?
Alors, dans ce livre, il y a d'abord une expérience personnelle assez remarquable qui nous confronte vraiment à ce que c'est que l'épuisement extrême, la tentative d'y résister, voire la tentative de le surmonter. Mais au-delà de cette restitution que je qualifierais moi d'immédiate, de brute, etc., il y a vraiment une réflexion sur quel sens peut avoir ce type de course. Et dans cette réflexion, il y a ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la tentative de montrer que la succession de l'épreuve de natation, de l'épreuve de cyclisme qui peut renvoyer à quelque chose qui est de l'ordre de la quadrupédie.
Absolument.
Et la course pédestre, cette succession-là renvoie finalement à une histoire d'humanité qui a commencé dans l'eau, qui s'est poursuivie sous la forme de la quadrupédie, si je peux dire les choses ainsi, et qui s'est terminée par l'érection, l'homme est figé.
L'homme érigé. Absolument.
L'homme érigé.
Absolument.
Et je trouve que cette restitution est particulièrement parlante. Et elle est expliquée comme étant un des éléments de la séduction de ce type d'épreuve. J'ajouterais que ce que montre très bien aussi Raphaël Verchère, c'est que l'épreuve en question, c'est pas seulement la succession de trois phases différentes, c'est la tentative de les intégrer les unes par rapport aux autres. Donc ça devient une sorte d'épreuve nouvelle qui a sa propre spécificité. Et je pense que cette caractéristique que relève l'auteur est également très intéressante.
Raphaël, justement, c'est très important ce que vient de dire Georges Vigarello, c'est que vous dites bien à plusieurs reprises dans ce livre que ce n'est pas une juxtaposition des trois épreuves à évoquer, mais c'est bien un tout. C'est comme la recherche d'un équilibre, et ça vous rapproche quelque part de votre démarche de philosophe.
Oui, bien sûr, le triathlon, c'est plus que trois sports qui seraient pratiqués les uns successivement après les autres. Les pratiquants comme les théoriciens insistent pour dire que c'est un nouveau sport à part entière où justement les qualités d'adaptation sont primordiales. Ce qui compte, c'est pas simplement d'être bon nageur, d'être bon cycliste, d'être bon coureur, c'est d'être bon cycliste après avoir nagé et d'être bon coureur après avoir nagé et couru. Et souvent dans les épreuves, ceux qui maîtrisent ce genre de sport aiment en faire une bonne démonstration. Même d'un point de vue symbolique, les nageurs qui sortent de l'eau vont enlever leur combinaison dans une sorte de métamorphose, de la même manière que
on enlève une peau, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Comme nos ancêtres phylogénétiques amphibiens ont pu passer à une vie terrestre. Tout à fait, oui, c'est ça. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est un sport à part entière.
Georges Vigarello, c'est un sport combiné, comme il en existe depuis très longtemps. Il y avait le pentathlon, évidemment, sous l'Antiquité. Mais je l'évoquais en introduction, dès la fin du 19e siècle, on trouve des tentatives, des prémices de trisports. On appelle ça les trisportifs ou les débrouillards, apprend-on dans le livre de Raphaël Verchère. Qu'est-ce qu'ils incarnaient à cette époque-là, Georges ?
Oui, parce que ce qui est bien montré dans le livre, c'est l'effort de restituer, au fond, quelque chose qui est dans la combinaison. Donc, ce qui passionne les sportifs à la fin du XIXe siècle, c'est pas seulement les spécialisations, c'est le fait qu'au-delà de la spécialisation, il peut y avoir des combinaisons, et ces combinaisons débouchent sur une qualité que je qualifierais de supérieure, et qui montre, au fond, l'homme qui est capable d'une complétude. Et l'exemple qui est montré tout à l'heure, que vous avez cité, est quand même très intéressant, parce qu'il s'agit finalement de trois épreuves différentes, mais il s'agit de trois épreuves différentes dans un effort qui, pour chacune d'entre elles, est relativement limité. Or, ce qu'invente le triathlon, c'est l'extrême de l'extrême.
Et oui.
C'est-à-dire des épreuves qui sont extraordinairement lourdes, et qui se succèdent en se combinant les unes par rapport aux autres. Et moi, ce qui me fascine dans cette affaire, c'est évidemment la tentative de la complétude, mais c'est la tentative aussi de se confronter à l'extrême.
Mmh. Raphaël Verchère, ce sport, il est, on va dire, véritablement né dans les années 70 aux États-Unis. D'une part, d'abord à San Diego, en Californie, puis à Hawaï, notamment porté par un monsieur qui s'appelait John Collins. Qui est-il, John Collins, et qu'est-ce qu'il voulait mettre en place avec l'invention de ce triathlon moderne, va-t-on dire, même si je n'aime pas trop ce mot moderne. Mais...
Oui, bien sûr. À toutes les épreuves dont vous avez fait état, effectivement, elles existent sur le sol français. Et toute la question sur le plan historiographique, c'est de savoir si avec le triathlon tel qu'on le pratique aujourd'hui, il y a une rupture ou au contraire, est-ce qu'il y a une continuité. Et ce que dit Georges est très vrai. En fait, dans toutes les épreuves combinées qu'on trouve au début du XXe siècle et même fin XIXe siècle en France, il y a effectivement l'idée de devoir combiner des aptitudes corporelles différentes. Mais il n'y a pas encore cette dimension de confrontation à des limites d'endurance. Et c'est ça que John Collins va finalement introduire dans les années 70 à Hawaï. Alors, John Collins, qui c'est à la base, c'est un militaire. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a déjà expérimenté le triathlon à San Diego, comme vous l'avez dit. À la base, San Diego, c'est quelque chose d'assez rudimentaire. Hein. On le voit quand on s'intéresse aux archives, puisque pour ce qui est de l'épreuve de cyclisme, par exemple, la plupart des participants s'attendaient à ce qu'on leur prête un vélo.
Oui.
Il y avait même certains participants qui allaient avec ce qu'on appelle des beach cruisers, c'est-à-dire des gros vélos qui servent plutôt à amener sa planche de surf à la plage. Et donc John Collins a pratiqué cette épreuve, et quelques années après... Le Big Bang du triathlon, comme le disent les pratiquants.
C'est 77, c'est ça ?
77, tout à fait. Mmh. Et ça part sur une forme de concours de virilité. Finalement, c'était la question de savoir qui des nageurs, des cyclistes ou des coureurs à pied avait la plus grande capacité consommation de l'oxygène. Parce que John Collins était tombé sur un article de presse qui défendait l'idée que c'était Eddy Merckx qu'il avait. Donc, c'est vraiment dans un bistrot que ça se fait. Hein. Les, oui. Les gens ont une conversation de bistrot. Et John Collins, pour trancher le débat, imagine cette épreuve qui consisterait à enchaîner les épreuves les plus dures à Hawaï. C'est-à-dire une épreuve de natation de près de 4 km, une épreuve de cyclisme de 180 km et pour finir, un marathon. C'est-à-dire 42 km. Mmh.
Georges, quand on entend ce John Collins, qui est donc un militaire, on parle d'épreuves de virilité. Je trouve qu'il y a toujours dans le sport combiné une dimension du sportif combattant. Par exemple, au début des années 20, il y a ce Hébert, la méthode hébertiste, oui. Qui était là aussi dans une sorte de sport combiné. Absolument. D'ailleurs, je crois que je ne dis pas de bêtises, Georges, mais il me semble que sous le gouvernement de Vichy, dans oui. l'histoire de régénérer la France physiquement Absolument. Et moralement, on s'est servi de la méthode hébertiste.
On a retrouvé un prestige qui était un peu oublié.
Voilà, mais voilà, exactement. Mais c'est vrai que dans ces sports combinés, il y a toujours une dimension, peut-être qui vient de très loin, du pentathlon, de l'athlète combattant, du sportif guerrier. Hein. C'est toujours un peu étrange.
Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est très bien évoqué dans le livre, qui est celle de la complétude.
Mmh.
Autrement dit, le sportif idéal serait celui qui montre sa capacité à passer d'une discipline à l'autre, un peu comme si on pourrait dire que un homme droitier est capable de montrer qu'il est aussi gaucher mmh. et que du coup il manifeste quelque chose qui est de l'ordre d'une totalité. Mmh. Il y a cette obsession là qui est très intéressante, que l'on retrouve aujourd'hui par exemple dans le décathlon, dans les épreuves athlétiques. Mais il me semble que le triathlon invente quelque chose de supplémentaire sur lequel il faudrait s'interroger et que le livre évidemment prend en compte. Cette dimension supplémentaire, c'est celle qui consiste à se confronter à l'extrême, qui consiste à aller à la limite de la limite, voyez-vous, quitte à dépasser la limite. Et là, le problème devient du coup celui de la maîtrise, celui de surmonter l'impossible, celui de s'affronter à ce qui n'a jamais été affronté jusque-là. Du coup, on voit que le problème de la complétude se complexifie, ça devient à la limite plus profond, et il me semble que ça va au-delà, et ça pose évidemment une question centrale, qui est pourquoi.
Et le pourquoi, on va y revenir. Pourquoi le triathlète fait du triathlon. Raphaël, vous évoquez aussi Gilles Deleuze dans ce livre. Vous rappelez que Gilles Deleuze a pensé ce qu'on a appelé des sports californiens, c'est-à-dire des sports nouveaux qui sont apparus aux États-Unis, notamment le surf, la planche à voile ou le deltaplane, par exemple. Et vous dites combien il a perçu que tout d'un coup, on n'était plus contre la nature, mais qu'on allait avec. On était porté par l'onde de la vague sur la planche de surf. On est porté par le vent quand on fait du deltaplane. Et vous insérez, vous, parce qu'il y a une concordance chronologique aussi de l'époque, vous insérez, vous, le triathlon dans cette réflexion de Gilles Deleuze. Pour quelle raison? J'ai du mal à comprendre parce que, vous voyez, autant le surf, je suis porté par la vague, autant je nage dans le triathlon, je vais contre l'eau quand même. Vous voyez, il y a une dimension qui m'échappe un peu, en fait, dans cette comparaison.
Oui, bien sûr, c'est peut-être moins visible, mais c'est présent hein, quand on creuse un petit peu, et c'est ce qui me semble décisif pour bien démarquer le triathlon contemporain des épreuves telles qu'elles pouvaient se dérouler dans le trisport, les épreuves de débrouillard ou autres épreuves de touche-à-tout au début du XXe siècle. Ce que Deleuze dit, c'est que les nouveaux sports ont remplacé les anciens. Les anciens sports, c'est des sports qui cherchent un appui, qui cherchent à créer quelque chose presque ex nihilo.
Il dit, en athlétisme, le starting block, hein.
Voilà,
on est appuyé contre un starting block, on s'arrache à la terre. Hein.
C'est
on
ça,
s'arrache
oui.
à la terre quand on fait de l'athlétisme. Voilà.
Tout à fait. Oui. Mm. Et les nouveaux sports, ils seraient caractérisés plutôt par une forme d'insertion dans un flux, dans une forme d'onde.
Et dans le milieu naturel aussi, du coup.
Absolument, et donc dans des éléments naturels. Et dans le triathlon, c'est ce qui se passe tant dans l'eau, dans l'air avec le vélo, et face à la terre avec la course à pied. Alors, en quoi c'est visible? En fait, quand on s'intéresse aux archives, on voit que les sportifs qui s'intéressaient aux anciennes épreuves, il y avait un rapport qui était plutôt d'une forme de combat face à la nature, où l'idée, c'était pas d'entrer dans une forme d'union avec l'élément naturel pour le dépasser, mais au contraire, de le considérer comme un adversaire. Et vraiment, avec les années 70, ce qui naît, c'est vraiment l'idée de s'insérer dans un flux. Et on peut par exemple le voir en natation avec des manuels d'entraînement qui vont insister sur d'autres manières de nager, où finalement on passe d'un simple modèle où il faut appliquer une force dans l'eau pour se propulser à plutôt une idée de mécanique des fluides.
Et de réfléchir à la mécanique des fluides.
Voilà, c'est ça, où il s'agit de s'insérer dans un flux. Pareil avec le cyclisme, où toute la question de l'aérodynamisme, elle est vraiment découverte à partir de ces années-là et initiée en premier lieu avec le triathlon. Hein. Les innovations en termes d'aérodynamisme, elles viennent du triathlon et pas du cyclisme lui-même.
Georges, après votre préface dans ce livre, il y a un premier chapitre où Raphaël décrit par le détail, par le menu, ce qu'il ressent lors d'une épreuve de triathlon. Et là, on est assez fasciné, on est au bord d'une expérience chamanique, j'ai envie de dire, parce que tout d'un coup, il y a là la douleur, parfois très très aiguë, très violente, il y a la joie, la perte de conscience de soi-même, l'allégresse d'y arriver. On est aux limites de beaucoup de choses. C'est très impressionnant, cette description qui fait, je crois, 20 pages de ce qu'il a ressenti dans cette épreuve-là. C'est très troublant à lire.
Je suis tout à fait d'accord. Mm-hmm. Je pense d'ailleurs que c'est initial. C'est ce qui engage le livre, qui lui donne une profondeur, qui lui donne en même temps quelque chose d'extrêmement sensible, qui renvoie, à mon avis, d'abord au fait qu'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est dit tout à l'heure dans un extrait que vous avez proposé, aujourd'hui, me semble-t-il, il y a plus d'écoute à l'égard de soi, il y a plus de relations, au fond, d'interrogations sur ce que l'on éprouve, sur ce que l'on est, et donc avec cette dimension psychologique, cette dimension qui porte sur quelles sont mes sensations, le mot était utilisé tout à l'heure, quelles sont mes sensations, comment évoluent-elles, etc. Or, évidemment, quand on se confronte à quelque chose qui est d'ordre de l'extrême, l'interrogation sur l'état du corps, sur son évolution, elle devient absolument centrale. Et c'est vrai que dans la manière dont Raphaël Verschaire le restitue, c'est une manière absolument, je dirais, décisive. On est confronté à quelque chose auquel on ne s'attend même pas. De telles souffrances sont folles.
Oui.
Et elles sont très bien restituées.
Oui, très bien.
Elles sont restituées jusqu'à leur côté, à la limite, presque obscène. La perte des sphincters, etc.
Oui.
Et je trouve que c'est très fort, parce que du coup, ça engage la question centrale, qui est pourquoi.
Oui.
Je reviens.
Exactement, mais alors on va y revenir, parce que justement.
Mais il faut insister sur cet aspect brut, vous avez tout à fait raison.
Cet
aspect immédiat, brutal, extrême.
Qui commence de lire.
Rendu dans sa version sensible la plus forte, la plus intense.
Une des questions du pourquoi, enfin, une des réponses au pourquoi, pardon, Raphaël, c'est qu'évidemment, vous l'évoquez, il y a évidemment la première question du masochisme. C'est-à-dire que tout d'un coup, est-ce que quand on lit ce texte-là d'introductif, on est frappé par la douleur. Et on se dit, mais est-ce que Raphaël Verschaire, comme les autres triathlète vont dans une quête de la souffrance chercher du plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet aspect parce qu'il faut quand même, je vais insister là-dessus, Georges évoquait l'aspect brut, on sent votre souffrance à un point inouï quand même dans cette épreuve.
Ah oui, cette souffrance, elle est à relativiser. Hein. Y a le triathlon longue distance, il y a aussi des distances plus courtes, mais même sur les distances plus courtes, la souffrance, elle peut être quand même présente. Et c'est une épreuve, effectivement, qui nous met face à ça, face à cette dimension de la souffrance. Et toute la question, vous l'avez dit, c'est de savoir de quelle manière on peut y prendre goût. Finalement, le rapport du triathlète, il va être très ambivalent face à cette souffrance. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Bridal qui a beaucoup travaillé sur le triathlon et il divise les souffrances en deux catégories, hein, les souffrances qu'il appelle négatives, les souffrances positives. Les souffrances négatives, elles sont rarement appelées par leur vrai nom. Hein. On cherche toujours des périphrases. On va dire qu'on a mal aux jambes, qu'on a les jambes au coton et ainsi de suite. Et ça va être des souffrances qui vont empêcher de pouvoir progresser dans la réalisation de l'épreuve. Et à l'inverse, les souffrances positives, c'est celles qui peuvent avoir un bénéfice sur le long terme, en termes soit l'entraînement de surcompensation pour être plus efficace, ou même au cours de l'épreuve, quand on sait qu'on a franchi un cap et qu'après, par exemple, la suite de la course va être différente. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher ces souffrances? Il y a tout un tas de modèle théorique qu'on pourrait convoquer. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est justement d'essayer de voir si le schéma psychanalytique pouvait avoir du sens, hein. Si d'une certaine manière on pouvait considérer le triathlon comme une perversion sexuelle, parce mm-hmm. que faut peut-être prendre le terme de masochisme
bien sûr,
au pied de la lettre. Mm-hmm. Et finalement, là, on peut être partagé parce que Freud lui-même était assez déconcerté face à l'idée qu'on puisse avoir du goût à la souffrance. L'intuition fondamentale de Freud, c'est l'idée quand même du principe de plaisir. Et donc, si la vie se bâtit sur le principe de plaisir, comment est-ce qu'on peut rechercher le non-plaisir ? Donc, il propose plusieurs hypothèses. La première hypothèse, ce serait l'idée que le masochisme, ce serait une forme de sadisme inversé. C'est-à-dire que il y aurait une propension chez l'être humain à vouloir être sadique sur l'extérieur, mais certaines personnes pourraient être impuissantes à ça. Donc, ils retournent un peu cette pulsion sadique face à eux-mêmes. Et ça, on le voit dans les sports individuels où le combat, il est souvent indirect. Une manière de faire souffrir l'autre, c'est de se faire souffrir soi-même. Parce que plus je me fais souffrir, plus je vais pousser l'autre à souffrir également. Et donc, dans cette forme de masochisme, pourrait se nier une forme de sadisme. Après, Freud n'était pas totalement convaincu par ça. Il a proposé d'autres hypothèses, parmi lesquelles l'idée que... il y aurait une forme de pulsion de mort qui est propre au vivant et qu'on aurait besoin d'extérioriser, mais il y aurait un résidu qu'on ne pourrait pas finalement projeter sur le monde extérieur et qu'on devrait retourner sur soi. Et une des dernières hypothèses qu'il propose, hein, parmi d'autres, c'est aussi l'idée que dans la souffrance, il y aurait la recherche d'une forme de régression à un stade un peu infantile vis-à-vis de l'enfance. Hein, l'idée d'être écrasé par quelque chose et qui joue aussi avec une forme de question morale et de sentiment de culpabilité qu'on pourrait avoir finalement. Dans le masochisme, il y aurait l'idée qu'on cherche un peu à se punir. Et peut-être qu'il y a ça qui se joue aussi dans le triathlon.
Une réponse passionnante en tout cas. Oui. Georges, allez-y, vous voulez...
Oui, non, ce que je veux dire, ce qui me paraît passionnant dans le livre, c'est que toutes ces questions sont posées et qu'en même temps, elles restent ouvertes.
Oui.
Elle laisse l'interprétation ouverte finalement au lecteur. Mais personnellement, ce qui m'intéresse historiquement, c'est au moins pour aller très vite, hein, quand j'avais travaillé sur la fatigue, ça m'avait frappé. Ce qui m'intéresse historiquement,
après,
c'est qu'il y a plusieurs phases. Il y a une première phase historique où la façon dont on s'inflige de la souffrance renvoie à une dimension religieuse. C'est le sacrifice des clercs, c'est la manière dont des gens se répandent pour servir les autres. Avec
si on souffre, on est méritant.
Voilà, une référence qui renvoie au fait qu'ils peuvent se racheter. Vous voyez, il y a une fatigue
sûr.
Rachat.
Oui.
Et puis, il y a une invention qui est très forte, à mon sens, et qui est très importante dans l'histoire occidentale. Cette invention, c'est au monde des Lumières, vous avez un ensemble de comportements qui sortent du repère religieux et qui se lancent dans des aventures qui sont des aventures de souffrance, mais pour obtenir non pas le rachat, mais pour obtenir l'assurance de soi, pour obtenir la certitude de soi. Et qu'est-ce qu'on voit émerger, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle? C'est l'effort extraordinaire que représente le fait de franchir un sommet. La montagne se met à exister avec une sorte de centration de force qui était impensable jusque-là. La montagne, c'était rien. Oui. C'était des terres perdues, c'était des terres infertiles, c'était des terres dangereuses. Et brusquement, elles se mettent à avoir de l'importance. Pourquoi? Parce qu'elles nous défient. Et ce problème du défi me paraît central, parce que c'est une manière, finalement, de faire en sorte que le sujet se donne le sentiment qu'il existe pour lui-même, uniquement pour lui-même. Et que c'est dans cette façon d'affronter qu'il s'affirmera encore plus comme sujet. Donc là, il y a quelque chose qui s'installe et qui, à mon avis, va traverser le 19e siècle, va continuer d'exister au 20e et au 21e avec des formes différentes, avec des formes qui vont intégrer des techniques, avec des formes qui vont intégrer de l'écoute, avec des formes qui vont intégrer des nouvelles inventions d'infini. Vous voyez, et on retrouve finalement la perspective de Raphaël Verchères.
Il est passionnant, ce Vigarello. On va faire une pause musicale avec un titre très chill out pour cette nouvelle année sur Inter. On va être très chill out en 2021. Voici le groupe Balthazar, comme le roi mage. Le titre joué Losers, ainsi soit-il. But I know you're going back. You have a brown leather suitcase you didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together, then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now.
L'œil du tigre.
C'est une épreuve pas comme les autres. L'Ironman d'Hawaï, un triathlon pour les plus entraînés, pour les plus fous.
Philippe Collin.
3 800 km de natation, 180 km à vélo, avant de terminer tout simplement par un marathon. 1500 athlètes au départ. À l'arrivée, ce sont souvent les mêmes qui gagnent. Chez les femmes, la Suissesse Natasha Badman l'emporte pour la 4e fois. Chez les hommes, comme l'an dernier, l'Américain Tim DeBoom s'impose. Après un effort de 8h29 minutes, le premier Français François Chabot se classe 6e.
Sur France Inter.
Le triathlon Ironman, le plus dur, le plus coriace, le plus convoité, créé à Hawaï en 1977 par John Collins, offre à celles et ceux qui vont jusqu'au bout un statut de super-héros. Dès le début des années 80, cette épreuve du dépassement de soi fut importée en Europe et en France. C'est à Nice, en 1982, qu'on vit apparaître les premiers triathlons. Depuis, le succès n'a cessé de croître dans le monde entier, comme si l'essor du triathlon était lié à une mutation de la société occidentale, que nous explique la philosophe Isabelle Queval.
On est dans une société, enfin en particulier la société occidentale, où le fait de montrer qu'on maîtrise son effort et qu'on maîtrise son corps est valorisant. Ça veut dire je suis en contrôle de ce qui se passe dans mon corps, dans ma santé, je suis capable d'endurer des efforts, je suis capable de repousser ces efforts, en tout cas finalement de m'inscrire, parce que c'est le cas, dans une forme de surenchère. Voilà, je dis souvent, l'effort appelle le dépassement de l'effort. Effectivement, il y a une forme de surenchère, il y a une forme d'addiction. On voit bien que la mode de la course à pied évolue parfois vers celle du triathlon, puis celle des raids, des trails de plus en plus durs, de plus en plus longs. C'est une manière individuelle, effectivement, de se fixer des objectifs, de se dépasser, de montrer qu'on s'inscrit dans, finalement, une finalité qui va rompre un peu aussi avec la sécurisation générale dans laquelle on vit, nos vies professionnelles, etc. Bon, c'est une manière de rompre aussi avec la société et, le monde professionnel hyper sécuritaire dans lesquels on vit. Bon, il y a cette addiction à l'effort qui se manifeste. Il y a le fait que l'effort témoigne du contrôle qu'on a finalement sur la douleur. Et puis, toujours, depuis les débuts du sport, l'effort douloureux est un marqueur inscrit dans notre culture, dans la culture judéo-chrétienne, qui dit bah oui, quand on se fait mal, on est méritant. Voilà. Et à l'issue de la douleur, on aura gagné quelque chose.
Raphaël Verchier, vous êtes philosophe, donc triathlète vous-même et auteur d'un essai passionnant consacré à la philosophie du triathlon. En lisant votre livre, Raphaël, et en écoutant Isabelle Queval, je me suis quand même posé une question. Est-ce que le triathlon ne serait pas le sport du productivisme? Est-ce que c'est pas aussi le marqueur d'un capitalisme qui s'est débridé aussi après la chute du mur de Berlin? Tout d'un coup, il avait triomphé de son ennemi communiste. Est-ce que c'est pas aussi le marqueur de ces cadres, peut-être qui frôlent avec le burn-out? On évoquera ça avec Vigarello et son livre sur la grande fatigue. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui tient de dépassement de soi, mais qui fait aussi écho à la société qui a changé?
Bien sûr, il y a tout un tas de marqueurs, de faits empiriques qui peuvent un peu aller en ce sens. Premièrement, si on regarde d'une manière très prosaïque comment les entraînements des triathlètes et même amateurs se réalisent, on se rend compte que ils font sans doute partie des sportifs et des sportives qui s'entraînent le plus. Il y a certaines études en sociologie du sport qui montrent que même chez les amateurs, c'est pas rare de s'entraîner 30 ou 35 heures par semaine, tout en ayant un travail à côté. Donc ça, ce serait le premier marqueur. Le deuxième marqueur, c'est également c'est cette idée de rendement auquel les sportifs et les sportives s'astreignent. L'idée, c'est toujours d'essayer d'accroître sa performance d'une manière qui, dans l'absolu, pourrait être sans fin. Là-dessus, le triathlon et le monde du sport en général entretiennent une forme de mythe. Le slogan de l'Ironman, c'est Anything is possible, donc tout est possible, y compris pour Monsieur Tout-le-Monde qui, s'il y met suffisamment d'énergie, pourrait peut-être réaliser n'importe quel objectif qu'il se donne. Et un dernier marqueur de cette convergence avec le capitalisme et le néolibéralisme, c'est justement ce qu'on disait en préambule, c'est cette question de l'adaptabilité, cette question de la polyvalence des tâches. On reste plus aujourd'hui dans notre société, on le voit bien, dans un métier qu'on va faire pendant toute sa vie, dans une forme de sédentarité, mais au contraire dans une forme de nomadisme, tant géographique que du point de vue de sa profession. Et le triathlon met en scène ça d'une manière tout à fait patente.
Georges Vigarello, un mot sur cet aspect, c'est-à-dire que dans votre excellent livre sur l'histoire de la fatigue aux éditions du Seuil, vous faites écho d'ailleurs à ces cadres supérieurs qui frôlent et qui cherchent le burn-out. C'est vrai qu'en lisant le livre de Raphaël, je me suis dit, mais quand même, cette fatigue qui est recherchée, elle peut faire écho à cette société qui veut de plus en plus et toujours plus.
Mais vous avez raison, les épreuves en question paraissent parfaitement naturelles, et en fait, elles sont éminemment techniques.
Oui.
Et l'investissement technique, c'est très bien monté dans le livre, est absolument considérable. C'est un travail immense, mais c'est un vrai travail, oui, c'est-à-dire avec des précisions chiffrées, régulièrement
très data, comme on dirait aujourd'hui, beaucoup de data.
Totalement précisées, avec l'investissement scientifique voulu, passant de la science à la technique, avec évidemment aussi un immense espoir de maîtrise et de domination de soi. Mais ce que je voudrais ajouter, parce que c'est présent dans le livre et ça m'a beaucoup touché personnellement, c'est qu'il y a en même temps, au-delà de cette recherche de l'infini, de l'au-delà, etc., il y a une vision totalisante. Alors je m'explique en deux mots. Ce qui est très bien repris dans le texte, c'est de montrer que la tentative du triathlon, c'est d'essayer de maîtriser les quatre grands éléments de la nature. Les grands éléments traditionnels, qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu. Alors ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire maîtriser l'eau, c'est trouver une sorte de complicité avec la vague pour pouvoir se glisser vis-à-vis avec elle. Et c'est contraire à la grande idée de Caillois qui était l'agone. C'est-à-dire, c'est pas, ça a été très bien dit par Raphaël tout à l'heure, c'est pas l'affrontement, c'est la complicité. Ensuite, il y a une complicité avec l'air. Le vélo, c'est la tentative de faire en sorte que l'on offre le moins de résistance possible. Et on va travailler techniquement, très profondément, sur le fait de surmonter la fameuse résistance. Puis ensuite, il y a la terre. Se montrer le plus léger possible.
La course
c'est ne pas peser, vous voyez. Et puis enfin, dans toute cette affaire, il y a la tentative de contrôler le souffle, c'est-à-dire de contrôler ce qui fait le feu organique. Donc on retrouve dans une sorte d'imaginaire que je trouve absolument magnifique, les quatre grands éléments. Et cette volonté de totalisation est sans doute aussi un des facteurs de séduction de ce type d'épreuve. Je crois qu'il faut insister là-dessus, parce que c'est ce qui crée une spécificité très originale.
Georges, ce que dit Isabelle Cavalle aussi dans ce son qu'on a entendu, c'est que à la fois ça peut être écho à une cadence de plus en plus dans la surenchère, mais on peut aussi y voir comme une sorte d'éloge de la liberté, c'est-à-dire que tenter d'échapper à la société du contrôle, repousser les limites, c'est aussi dire moi je peux faire plus, mais à titre personnel.
Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'invention qui, à mon avis, remonte aux Lumières. C'est l'invention d'un sujet qui, en s'affirmant, tente de à la fois prendre en compte les codes et de s'en libérer. Et ça, c'est très important. Et de s'en libérer de façon de plus en plus profonde, de plus en plus complexe, et qui renvoie à quelque chose qui est de plus en plus infini.
Absolument. Raphaël Verchère, vous posez la question dans le livre, alors je vous la repose, j'ai lu la réponse parce que j'ai lu votre livre, mais le triathlon est-il une méritocratie, hein ? Est-ce qu'on mérite après tant de travail, tant d'efforts, ou est-il une aristocratie inégalitaire ? Quel est l'essence du triathlon, d'un point de vue politique quasiment, Raphaël Verchère ?
Oui, c'est une question qui est très importante et qu'on peut étendre aussi aux autres sports. Et aujourd'hui, on projette assez facilement une représentation méritocratique sur le sport, au sens où finalement la réussite sportive, elle serait due essentiellement au travail. Et aux litres de sueur qui pourraient être versés. Et ce qui est très intéressant quand on se plonge un peu dans la généalogie du sport, eh bien, c'est que la lecture de la réussite sportive fin 19e siècle, début 20e siècle, elle n'était pas du tout pensée en ces termes. Elle était plutôt pensée en termes non pas de méritocratie, ou de démocratie égalitaire, mais plutôt en termes d'aristocratie, dans ces termes eux-mêmes. Alors d'une manière un peu métaphorique, c'est ce qu'on trouve par exemple chez Pierre de Coubertin. Pour Pierre de Coubertin, en quoi le sport est une aristocratie ? Ben, c'est qu'elle va essentiellement mettre en avant le privilège de naissance d'un point de vue physiologique ou même psychologique, c'est-à-dire que pour réussir dans le sport, il faut d'abord être bien né avec le corps qu'il faut. Et les théoriciens au début du XXe siècle vont vraiment se cliver sur cette question. Pierre de Coubertin, il se félicite justement de cette question aristocratique parce qu'il en voit tout de suite les usages politiques qui pourraient être derrière. Notamment l'idée que si on la voile un petit peu, cette idée d'aristocratie, ça peut enjoindre les gens à travailler le plus possible en leur faisant miroiter une forme de promotion dans les hiérarchies sportives.
De récompense.
Et voilà, absolument. Tout en conservant une forme d'ordre établie. Et à l'inverse, des auteurs comme Georges Hébert, dont on a parlé tout à l'heure, vont critiquer le sport précisément pour cette idée. Et donc, ce débat, on en a beaucoup conscience début XXe siècle, et après la Deuxième Guerre mondiale, et essentiellement avec les années 60, avec la politique gaulliste, avec Maurice Herzog, la tendance à être totalement voilée. On va lire la réussite dans le sport comme étant due essentiellement au travail. Et encore aujourd'hui, cette idée, elle est popularisée par certains auteurs, notamment outre-Atlantique, chez certains psychologues, où y a notamment ce fameux mythe ou loi, alors suivant qu'on y croit ou pas, des 10 000 heures. Mm-hmm. L'idée que finalement, pour appartenir à l'élite du sport, mais également de n'importe quelle autre discipline d'excellence, eh ben, il suffirait de s'investir pendant 10 000 heures de suite d'une manière appliquée.
Ça marche pour la musique, pour la formative. Oui. En gros, si on y consacre 10 000 heures dans sa vie, on devient un spécialiste. On peut en tout cas prétendre à appartenir à une élite.
Voilà, c'est l'idée d'Erickson et de Gladwell, qui est un auteur très lu outre-Atlantique. Mm-hmm. Mais il y a certainement un sophisme derrière ça, hein, qui a été montré, c'est que les personnes qui appartiennent à l'élite, sans doute, se sont impliquées pendant 10 000 heures, mais c'est une condition qui est nécessaire et sans doute pas suffisante. Hein. Il y a quand même un arbitraire de la naissance qui subsiste, qui est soit physiologique, soit psychologique ou même social, hein, qui fait que il suffit pas d'y mettre la bonne volonté pour pouvoir y réussir. Et c'est ce qui peut expliquer justement des phénomènes vus comme marginaux, tels que la triche ou le dopage, hein, puisque qu'est-ce qui reste à la personne à qui on a fait croire que le travail pouvait payer et qui échoue à l'emporter, si ce n'est peut-être la tentation de tricher et de corrompre cet ordre sportif.
Georges Garello, pour terminer, ceux qui parviennent au bout, oui, du triathlon, ont droit à une gratification. Ce sont des finishers, ceux qui ont fini, ceux qui sont allés au bout.
Ceux qui sont arrivés dans le fer et le bronze.
Le fer et le bronze. Et à la fin du livre, Raphaël Verchères dit qu'en fait, finir, c'est ce que tout le monde cherche dans la vie, en vérité. Est-ce que c'est pas ça la finalité du triathlon? Vouloir finir, quoi qu'il en soit.
Vouloir finir en dépassant, vous voyez. Oui, oui. Mais moi, j'ajouterais que ce que je trouve très important aussi, c'est le fait qu'au fur et à mesure que les décennies passent, l'effort implique quelque chose qui totalise de plus en plus le sujet. Autrement dit, dans la tradition, l'effort semble effectivement quasi exclusivement physique. Et puis progressivement, il y a du psychologique qui s'installe. Il y a de la nuance, il y a de la science, il y a de l'intelligence. Et aujourd'hui, me semble-t-il, ce qui est privilégié dans cet effort, c'est le fait qu'il apparaît comme totalisant, impliquant l'homme dans son entier, y compris dans sa psychologie, y compris dans ses affects, jusqu'à transformer ses propres affects.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. C'était passionnant. Je rappelle que vous pouvez lire Philosophie du triathlon de Raphaël Verchères, préfacé par Georges Vigarello, disponible aux éditions du Volcan. Et vous pouvez aussi lire cette passionnante histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours. Livre absolument génial, signé Vigarello. C'est disponible aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à vous deux. On va continuer en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, une prière dans un temple profane. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, de qui allez-vous nous parler ce soir?
De Jerry Marsden. Ah. Ce chanteur anglais est décédé le 3 janvier à l'âge de 78 ans. Il était le leader de Jerry and the Pacemakers, une formation rock originaire de Liverpool qui a un temps rivalisé avec les Beatles. Mais surtout, Jerry Marsden est resté célèbre pour avoir enregistré avec son groupe, en 1963, une version de You Never Walk Alone, qui est ensuite devenue l'hymne de plusieurs clubs de foot, dont celui du Liverpool FC. Sa relecture bouleversante de ce standard américain commence comme ça. When you walk through a storm, hold your hand up high and don't be afraid of the dark. Mais qui a composé donc ce You'll Never Walk Alone? Il s'agit à l'origine d'un extrait d'une comédie musicale nommée Carousel, composée en 1945 par les Américains Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Ce titre, qui est interprété dans le spectacle après le décès d'un des personnages principaux, se révèle à la fois élégiaque par sa mélodie et optimiste par ses paroles, qui résonnent comme un appel à la solidarité. You never walk alone, signifiant évidemment « tu ne marcheras jamais seul ». Alors ce morceau a rapidement rencontré un certain succès aux États-Unis, notamment parce que Frank Sinatra lui-même l'a repris sur la radio CBS un mois à peine après la première de Carousel à Broadway. Walk on through the wind, walk on through the rain, though you
comment Jerry Martinen a-t-il eu l'idée d'enregistrer cette chanson, pardon.
Alors, à l'automne 1963, il voit dans un cinéma de Liverpool un long métrage de 1956, Carousel d'Henry King, tiré de la comédie musicale du même nom. Jerry Marsden est fasciné par l'interprétation langoureuse de You Never Walk Alone proposée dans le film. En sortant du cinéma, il n'a qu'une envie, enregistrer au plus vite avec son groupe sa propre version de ce tube. Celle-ci sort le 23 octobre et se classe numéro 1 des charts britanniques dès le 6 novembre.
Et quand est-ce que les supporters de Liverpool ont adopté ce titre ?
Eh bien, quasi instantanément. À l'époque, la sono d'Anfield, l'antre du club, diffusait avant les matchs les 10-45 tours les plus vendus du moment. Et à chaque fois que le « You Never Walk Alone » de Jerry and the Pacemakers résonnait, le COP, la plus célèbre tribune de ce stade, reprenait spontanément ses paroles simples et fédératrices. C'est ainsi que ce morceau est devenu l'hymne du club. Il est aujourd'hui encore entonné par tous les fans avant chaque rencontre.
D'ailleurs, les supporters d'autres clubs de foot ont adopté, hein, tu nous disais, ce morceau aussi comme hymne finalement.
Oui, on a pu l'entendre avant les matchs à domicile du Celtic Glasgow en Écosse, du Borussia Dortmund en Allemagne ou encore du Red Star, le club de Saint-Ouen. Le succès rencontré par You Never Walk Alone dans le milieu du foot est tel que cette chanson a fini par être réappropriée par des artistes, mais en tant que chant de supporter. À la fin de Fearless, un titre splendide de Pink Floyd datant de 1971, on entend ainsi le COP clamer son hymne. Si vous me permettez cette expression, Philippe,
oui.
Ça fout les poils.
Allons-y. C'est vrai que c'est magnifique. Et pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Anfield vivre ça, c'est un moment extraordinaire. Et d'une certaine manière, You'll Never Walk Alone a fini complètement par échapper à Jerry Marsden.
Non, parce que la version de Jerry and the Pacemakers reste aujourd'hui considérée comme la meilleure jamais enregistrée. Ces dernières années, Jerry Marsden était d'ailleurs invité régulièrement à Anfield pour y interpréter ce titre les jours de match. En 2016, dans un poignant documentaire nommé You Never Walk Alone, réalisé par André Schaeffer et consacré à cette fameuse chanson, Marsden comparait celle-ci à une prière. Il ajoutait « J'ai récité cette prière tellement de fois en public que désormais, je mérite d'aller au paradis. » Bon, ben on espère en effet qu'il y a été accueilli à bras ouverts, tellement il a contribué à rendre fiers des générations de supporters.
Eh bien, on l'espère aussi. Je rappelle que Jerry Marsden est mort dimanche dernier à 78 ans. À la semaine prochaine, Pierre-Étienne.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, nous sommes au bout de cette 18e émission, notre saison 6. Elle a été réalisée, bien sûr, par H2M, Henri, Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Michel Bézikian. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Loïc Sommier pour l'animation de nos réseaux sociaux et Thierry Dupin pour la programmation des Scuds. On se retrouve dimanche prochain avec l'histoire des sélectionneurs de l'équipe de France de football, une autre histoire de l'Hexagone vue du banc de touche. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.